On va, avec Dominique Froidevaux, vous permettre de voyager un peu dans la sécurité sociale, traverser quelque peu l'histoire de notre pays en matière de sécurité sociale, de pointer les grandes avancées sociales. Puis on va surtout s'arrêter sur ce que nous vivons aujourd'hui en matière de sécurité sociale et pourquoi est-ce que on commence à parler d'insécurité sociale. Donc c'est la réflexion majeure que nous allons partager avec vous, c'est vraiment de se poser la question de savoir pourquoi, alors qu'on est dans un pays riche, avec un taux de chômage relativement bas par rapport à celui de la France, par exemple, qui vient d'être annoncé. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se met à parler d'insécurité sociale? Et puis enfin, on finira par une utopie, parce qu'il est bon de clore cette réflexion par un bout d'utopie.
Voilà, quand on a préparé ensemble avec Alain, on s'est dit si on veut faire le tour du système de sécurité sociale suisse, on en a pour un moment. Et on s'est rendu compte qu'on avait un empilement extrêmement complexe en Suisse de lois qui garantissent ce système, qui en posent les fondements, mais qui sont des lois relativement récentes. Et qu'en Europe aussi, on revient de loin. Et que ça n'a pas toujours été évident, ce système de protection. Donc, je vous propose pour démarrer justement de nous projeter au XVe siècle, autour du débat européen, donc de ce qui se vivait en Europe autour de la pauvreté. On était à une époque, XVe siècle, où le système, l'ancien système qui avait prévalu au Moyen Âge de protection du serf par son seigneur était en train de s'écrouler. Il y avait beaucoup de pauvreté dans les campagnes. Cette pauvreté fuyait massivement vers les villes, avec comme répercussion aussi une certaine répression de la mendicité pour toutes les personnes qui arrivaient dans les villes et qui se retrouvaient à survivre comme ils le pouvaient. Et c'est Robert Castel qui met en évidence un arrêt du tribunal du Châtelet, une condamnation à mort de quelqu'un qui était simplement vagabond, qui était soupçonné de vol, sans qu'il ait pu être vraiment condamné pour vol, puisqu'il n'y avait aucun élément qui pouvait prouver sa culpabilité de vol, et qui a été donc condamné à être pendu. L'arrêt, enfin, où le verdict est intéressant, hein, on peut apprendre un peu le vieux français, mais il était condamné pour le motif qu'il était digne de mourir comme inutile au monde, et c'est à savoir donc être pendu comme larron. Donc voilà, donc il y a cette notion, d'abord, non pas de dignité de vivre, hein, mais de digne de mourir, et d'inutilité au monde. Donc, c'est des événements comme ça qui nous permettent de voir le chemin parcouru. Cet enjeu que défend Philippe Texier au niveau international, la question des droits humains, des droits civils, politiques et sociaux, c'est devenu quelque chose qui est une référence. La dignité de vivre, c'est une sorte d'évidence quand même dans nos sociétés, et heureusement, ça ne l'a pas toujours été, et c'était le fruit d'une conquête. C'est une conquête fragile, mais c'est une conquête quand même, et il faut s'appuyer là-dessus, d'autant plus que dès les débuts du mouvement pour les droits humains, eh bien, c'était pas évident que les plus pauvres aient aussi des droits. Dans la Déclaration des droits humains, au moment de la Révolution française, il fallait être propriétaire pour avoir voix au chapitre. Donc les pauvres n'y avaient pas droit. Hein? Et hommes, puisque les droits des femmes, surtout en Suisse, sont venus aussi très tardivement, j'ai connu ça de mon vivant. Ça nous rassure toujours. Mais c'est intéressant de voir que cette construction, il n'y a pas de droits civils et politiques sans droits sociaux. Ce que dit Robert Castel dans son livre sur l'histoire de la protection sociale, c'est que justement ce qui a constitué le territoire qui manquait aux plus pauvres pour avoir voix au chapitre, c'est le système de sécurité sociale. C'est ce qui a donné une base de sécurité et d'autonomie pour pouvoir participer à la vie civile et politique. C'est résumé ici dans cette citation de Dominique Schnapper qui dit ceci: l'individu citoyen doit disposer des moyens matériels nécessaires pour rester cet être indépendant et autosuffisant qui est à l'origine de la légitimité politique. Sans cette sécurité sociale, l'appel ou l'aspiration à la liberté, à l'autonomie n'a pas de sens non plus. Elle ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de solide. Donc l'organisation de l'éducation, de la protection du travail, parce qu'avant qu'on ait aussi une sécurité sur le plan des assurances et des risques, le départ a été aussi les bribes de sécurité au niveau du contrat de travail déjà et d'évolution pour sortir du rapport d'exploitation fondamentale dans le contrat de travail. L'organisation de l'éducation, de la protection du travail, des secours aux plus malheureux, se justifie par le fait que le citoyen doit avoir la capacité d'être autonome, sinon tout l'édifice des droits fondamentaux ne tient pas. Alors que si on regarde en Suisse, eh bien maintenant plus précisément, au XVIIIe siècle, nous avions encore des systèmes très éclatés d'entraide. Il y avait des filets sociaux, ça dépendait énormément des cantons, c'était plutôt de l'aide d'urgence qu'une véritable sécurité sociale. Le droit du travail était embryonnaire, il existait pour certains métiers, dans certaines corporations de métiers, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, etc. Mais c'est venu, c'est petit à petit que l'édifice s'est construit. Et le devoir de venir en aide aux personnes en situation de détresse a été longtemps une préoccupation des églises, mais aussi des communes, où on trouvait plus juste de renvoyer dans la commune d'origine, encore, c'est jusqu'en 99, hein, 1999, que cette référence à la commune d'origine prédominait dans l'aide sociale en Suisse. Donc c'est il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine d'années, qu'il y avait encore cette référence-là, tout simplement parce qu'on disait qu'à une certaine époque, le seul moyen de vérifier les abus, c'était aussi d'aller voir dans la commune d'origine, auprès des personnes qui connaissaient la personne en difficulté, pour voir si elle avait vraiment droit à une aide. Bien sûr que ce système est devenu beaucoup plus complexe avec la massification et puis avec l'urbanisation croissante de la Suisse. Le tournant s'est fait au XIXe siècle sous la pression de l'étranger, hein, parce que des systèmes de protection se mettaient en place à l'étranger, que la Suisse commençait à s'unir aussi autour d'une constitution fédérale, hein, qui nécessitait de mettre en place aussi des lois fédérales pour harmoniser un petit peu ce qui existait dans les différents cantons. On a mis en évidence le congrès ouvrier de 1883 parce que c'était la première fois qu'était évoqué justement ce droit à un système de protection et un système d'assurance sociale pour se protéger contre les aléas de l'existence. Mais il a fallu attendre le 20e, et là nous avons résumé un petit peu les avancées sociales. La première assurance qui a eu lieu au niveau fédéral, c'était d'abord une assurance militaire. C'est la toute première loi sociale en Suisse. Le terreau de l'unification de la Suisse sociale, paradoxalement, ça a été l'unification des armées qui servaient à se battre les uns contre les autres jusqu'à la Constitution 1848 et qui a permis ensuite d'avoir une armée unifiée, défensive. C'est assez paradoxal. Le chômage, eh bien, il y a eu des assurances partielles selon les métiers, mais l'assurance chômage n'a connu une loi fédérale qu'en 1924. Il y a eu un office fédéral des assurances sociales créé dès 1913, mais assurance maladie, c'est 1914, 1918, l'assurance accident, l'assurance perte de gain, 1939. L'assurance vieillesse et survivant avait échoué en première votation dans les années 20 et a été acceptée dans les années 40, en 1948. L'assurance invalidité, c'est encore plus tard, 1960, après de premiers débats qui ont duré extrêmement longtemps. Les prestations complémentaires ont été introduites en 1966, quand on voyait que ces assurances fédérales contre le risque d'invalidité, les aléas et la précarité due à la vieillesse, ou le risque donc de perte du conjoint, etc., ou le risque chômage, la couverture du risque chômage ne suffisait pas. Donc la législation concernant les prestations complémentaires a été ancrée au niveau fédéral en 1966. Et le droit à une aide en situation de détresse, l'article 12 de la Constitution fédérale, date de 1999. Donc vous voyez qu'on a un système social qui est certes performant, comme le dit Philippe Texier, qui est luxueux par rapport à d'autres pays, mais qui est récent, qui est construit avec un millefeuille. Malik Osden décrit très bien qu'on a essayé de reconstruire aussi schématiquement, pour donner une assise à ce système, de le construire autour des trois piliers qui sont décrits dans la publication du CETIM, hein, le pilier de la redistribution, le pilier de la capitalisation et le pilier de l'épargne individuelle. C'est pour son financement, tout cela, mais c'est un système qui s'est construit vraiment par étapes, qui est assez récent, qui est assez fragile. Et on voit les dernières conquêtes. Nos organisations d'entraide plaident pour une politique familiale. On l'a fait efficacement parce qu'on travaille ensemble ici à Genève, mais ce n'est pas garanti partout. Puis je cède la parole à Alain, puisqu'il y a deux avancées récentes dont on peut être fier sur Genève, hein, en matière de politique familiale. C'est les allocations familiales et les prestations complémentaires.
Voilà, donc en matière d'allocations familiales, on en parle pour la première fois en 1945. Ce qui est à relever, c'est qu'il y a effectivement des montants qui sont imposés au niveau de la Confédération. Mais la grande avancée dans le canton de Genève, c'est ce changement qui a vu la droite au Grand Conseil l'accepter. C'est cette fameuse allocation qui passe de 200 à 300 francs ou de 250 à 400 francs en fonction de l'âge. À noter que là, il y a un premier effet important, c'est que ces montants-là viennent en déduction de ce qui est versé au niveau de l'aide sociale. Donc si c'est une avancée pour ceux, ou en tout cas un soutien important pour les familles qui ne sont pas au bénéfice de l'aide sociale, ça ne change strictement rien quand vous êtes au bénéfice de l'aide sociale. La deuxième avancée pour laquelle on a effectivement beaucoup lutté au niveau de nos deux organisations, c'est les prestations complémentaires familiales qui existent et sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre de cette année, donc il y a quelques jours, sur un constat extrêmement important, c'est que avoir des enfants accroît le risque de pauvreté. Et il y a eu tout un travail important de la Direction générale de l'action sociale pour pouvoir expliquer aux députés que c'était inutile pour un certain nombre de familles de les maintenir à l'aide sociale pour que l'aide sociale verse, donc que l'hospice général verse des prestations complémentaires parce que les salaires sont insuffisants. Sur cette question-là, lorsqu'on a été auditionné, je m'en souviens bien, avec Dominique en commission des affaires sociales, on a évoqué les salaires qui étaient pratiqués dans l'économie, enfin qui sont toujours pratiqués dans l'économie genevoise. On a un peu surpris les députés quand on leur a dit qu'il y avait des conventions collectives de travail qui existaient avec des salaires de base à 3250 francs par mois. Néanmoins, ils existent. Et ils font qu'une partie des gens qui sont au bénéfice de ces conventions-là peuvent aujourd'hui bénéficier de ces prestations complémentaires pour les familles. Alors on peut se poser la question de savoir si on a empoigné le problème de la bonne manière. De fait, ça veut dire que l'État aujourd'hui est amené à intervenir pour compléter les salaires qui sont versés, les salaires insuffisants qui sont versés par certaines entreprises, ou alors permettre à des familles de vivre mieux que ce qu'elles ne vivaient jusque-là. Vous avez ce chiffre de taux d'activité. Pour pouvoir bénéficier de ces prestations, il faut pour les familles monoparentales travailler au moins à 40% et à 90% pour les familles ayant un ménage composé de deux adultes.
Oui. Juste sur ce point, justement, donc il n'y a que trois cantons qui offrent des prestations complémentaires familiales pour le moment. Ça rentre dans le canton de Genève en vigueur depuis le 1er novembre. Ça existe dans le canton de Vaud et au Tessin, qui était le tout premier à introduire. Ça veut dire que cette dernière couche du système de sécurité sociale suisse, qui est basée sur la politique familiale, elle n'est même pas encore couverte au niveau de l'ensemble de la Suisse. Hein, pour vous dire combien le millefeuille est récent, incomplet, mais aussi fragile. Hein.
S'ajoute à tout ce que nous avons décrit jusque-là, les aides sous conditions de revenus, allocations logement, subsides d'assurance maladie, les aides communales, les aides de nos associations caritatives et le soutien de certaines fondations. On est amené, via nos deux services sociaux respectifs, à faire de la pratiquer ce qu'on appelle la recherche de fonds pour des individus en présentant des dossiers à des fonds ou des fondations privées qui viennent en aide, en particulier à des familles qui vivent des situations difficiles et particulièrement des familles qui sont surendettées. Ce que nous cherchons aujourd'hui à faire, et ça c'était pour nous important de le relever aujourd'hui, c'est de développer des actions de prévention, en particulier sur la question de l'endettement ou sur la question du surendettement. Nous développons et l'un et l'autre, enfin nos deux associations, ces actions de prévention, en particulier au niveau d'une frange de la population qui n'est peut-être pas encore confrontée à cette question du surendettement, c'est-à-dire les 18-25 ans. L'idée étant qu'en s'adressant à eux, on va pouvoir les sensibiliser, sachant que ce qu'on voit statistiquement, c'est que plus de 80% des gens qui sont surendettés ont commencé à constituer des dettes avant l'âge de 25 ans. Donc on a là une population cible importante à laquelle on doit pouvoir s'adresser et pouvoir en particulier parler budget, rapport avec l'argent et expliquer tous les risques qu'il y a autour du petit crédit. Protection du droit des migrants et des clandestins. Là, il y a un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours à travers la presse. C'est que la crise qui est vécue, en particulier dans les pays du Sud, amène aujourd'hui un certain nombre de ces habitants à se déplacer, pensant que en Suisse notamment, on va pouvoir leur offrir du travail, voire éventuellement un logement. Il y a là une illusion qui amène ces gens à vivre dans une immense précarité. Donc là, il n'y a pas de protection sociale, bien évidemment. Il n'y a pas de filet de sécurité. Et le discours qui va être tenu cet hiver par les autorités politiques et en particulier par la ville de Genève qui gère les abris de protection civile, c'est nous vous accueillons dans un abri de protection civile. Si vous n'avez pas de logement, on vous accueille pendant 3 semaines. Ces 3 semaines sont là à notre disposition pour vous convaincre qu'il faut que vous rentriez chez vous parce que l'avenir est impossible ici. Donc on a de ce point de vue-là un travail d'information et de soutien à ces migrants. Et puis, dernier point, les questions de formation, des enjeux multiples pour lutter contre la pauvreté. Vous avez probablement entendu la semaine dernière le Conseil fédéral annoncer un programme qui peut paraître dérisoire dans le domaine de la formation, puisqu'il s'agit de disposer d'un montant d'1,8 million par année pendant 4 ou 5 ans. Là, il y a pour nous matière à effectivement travailler. On voit qu'on est dans un système de cascade, c'est-à-dire que ce que dit la Confédération, c'est que dans ce domaine-là, sur la question de la pauvreté, il s'agit plutôt, enfin, ça devrait être au canton de développer aujourd'hui des programmes et de réfléchir à cette question-là, voire aux communes. Donc on est vraiment dans un système où la Confédération va se décharger sur cette thématique-là, sur nos collectivités locales. Pour les questions de temps, j'allongerai pas beaucoup plus là-dessus. Je vais m'arrêter sur l'aide sociale et avec une question, c'est où va l'aide sociale ? On a un principe qui a été établi du filet social qui fonctionne, qui garantit à chacun un minimum vital. On est frappé, j'ai ressorti le discours de François Longchamp, discours qui a été prononcé lors du 475e anniversaire de l'Hospice Général. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous citer deux phrases. L'aide n'a jamais été considérée comme un droit absolu, mais plutôt comme un privilège que les bénéficiaires doivent mériter par un comportement adéquat. Cette phrase-là est tirée d'un discours de Calvin il y a 475 ans, plus de 475 ans, puisque c'était en 2010. Et la suivante est de François Longchamp. « Chaque individu a bien sûr droit au minimum vital, mais il a aussi le devoir de fournir des efforts en vue de sa réinsertion. C'est là le sens du contrat d'aide sociale individuelle qui incarne cette idée d'équilibre de droit et de devoir. » Donc il y a une vision politique autour de l'aide sociale qui vient dire là aux personnes qui sont au bénéfice de ces prestations que sans effort de leur part, il n'y a pas de raison qu'on les soutienne. Et on en arrive à une notion qui est extrêmement importante et qui nous frappe, c'est que on voit les personnes au bénéfice de l'aide sociale aujourd'hui comme de potentiels fraudeurs, ce qui est assez grave parce que ça rend la relation avec les assistants sociaux assez conflictuelle, voire difficile. Il y a un deuxième volet qui est aujourd'hui développé, qui est la question de l'insertion par l'économique. C'est-à-dire qu'on a vu cette loi sur l'aide sociale individuelle changer de nom et s'appeler dès le 1er février la LIASI, la loi sur l'aide sociale et sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, avec une question fondamentale qui est comment faire pour que les gens qui sont au bénéfice de ces prestations retrouvent le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation qui est faite dans les quatre premières semaines quand vous rentrez, quand vous arrivez à l'aide sociale, évaluation qui est faite à travers un stage que l'on critique aujourd'hui parce qu'il s'agit d'évaluer l'employabilité de la personne qui est au bénéfice de ces prestations. Et vous avez deux possibilités, soit vous êtes décrété employable et là il va y avoir un travail d'accompagnement et d'éventuel soutien qui va être fait, soit vous êtes décrété inemployable, ce qui est assez difficile à entendre pour ne pas dire plus, et auquel cas, quand vous êtes inemployable, on vous accompagnera comme on vous accompagnait avant, c'est-à-dire avec un rendez-vous qui vous est fixé chaque mois. Et puis, si vous décidez de lever la main en disant « peut-être que je ne suis pas aussi inemployable que ça », alors à ce moment-là, il vous sera proposé de repasser par cette étape de stage.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est les mutations auxquelles on est confronté. Hein, à travers tout ça aussi, on a pu mettre en place ce système de sécurité sociale suisse avec les années de vaches grasses, avec un plein emploi et avec une société relativement stable. Les choses ont changé. Le dynamisme économique est toujours là, certainement. Les inégalités s'accroissent en Suisse, mais c'est un système qui bouge beaucoup.
C'est un système aussi qui fragilise beaucoup les personnes qui n'ont pas assez pu se former au début de leur parcours et qui n'ont pas la possibilité de rebondir en ayant une formation de qualité. Il ne suffit pas d'évaluer l'employabilité ou non. Une fois qu'on est dans un système où, justement, il y a l'économie, par la mondialisation aussi, transfère beaucoup d'employeurs, il faut une réactivité des entreprises ici énorme. Il y a cette notion de flexibilité qui est très contestée, hein, mais qui s'impose de fait à tous les travailleurs ici en Suisse. Et on ne donne pas encore aux travailleuses et travailleurs les moyens de cette flexibilité, les moyens de rebondir en cas de difficulté. Et on a beaucoup de gens... notre système chômage, il était prévu pour très peu de chômage. L'augmentation du nombre de chômeurs fait qu'on réduit le nombre de jours auxquels on a droit au chômage, alors que le chômage de longue durée augmente et que de plus en plus de gens restent sur le carreau après une période de chômage de longue durée. Donc les revendications aujourd'hui, justement, de nos œuvres d'entraide, hein, portent beaucoup sur la possibilité, non pas simplement d'être remis hors de l'aide sociale parce que ça coûte trop cher, par incitation en disant mais évaluez votre employabilité, hein, et puis allez-y, la loi est là pour dire ben voyez, sentez-vous quand même un peu coupable, hein, ce que Longchamp disait lors de l'anniversaire de l'hospice général, on peut le rejoindre d'une certaine manière, on peut pas simplement se contenter d'aide sociale dans sa vie, mais sans les moyens accordé à la formation dès la petite enfance, la formation des jeunes en difficulté, puisqu'il faut déjà pouvoir y entrer dans ce marché du travail quand on est jeune et qu'on a eu des difficultés et qu'on n'a pas eu un parcours scolaire toujours facile, pour X raisons qu'on peut analyser, hein, mais qui sont à prendre en compte. Mais ensuite, la formation continue aussi, pour pouvoir rebondir dans son existence. Donc c'est vrai que le système de sécurité, il ne va pas pouvoir fonctionner s'il n'y a pas un investissement massif dans cette formation et pas seulement dans la culpabilisation des gens qui doivent, pour des raisons différentes, bénéficier de ce système simplement pour assurer leur existence quotidienne.
On avance. Oui, on va tenir l'horaire. Pour rebondir sur ce que disait Dominique, on voit bien là qu'on est dans un système où chaque révision d'assurance d'un certain nombre de lois débouche sur des diminutions de prestations. On l'a vu dans le domaine du chômage, on l'a vu dans le domaine de l'assurance invalidité. Ça a eu pour effet, entre autres, effectivement, de voir un certain nombre de personnes arriver, bénéficier de cette aide sociale plutôt que, effectivement, démarger à ces deux premières assurances sociales. La crise des finances publiques, elle est importante. Elle nous fait penser ou elle nous laisse penser qu'on va vers des difficultés qui vont être croissantes. Il y avait pas plus tard qu'il y a quelques semaines des réactions assez vives dans le canton de Vaud, par exemple, au vu des budgets de l'aide sociale qui explosent complètement. Les communes, alors là, en particulier dans un canton où les directives viennent du canton, mais elles sont appliquées par les communes. Les communes disaient, mais nous, nos budgets sont de plus en plus importants. Enfin, la part de nos budgets qui est consacrée à l'aide sociale est de plus en plus importante. On ne va pas pouvoir tenir encore comme ça très longtemps. Et on le voit à Genève, le poids de l'aide sociale dans le budget du canton, ces deux dernières années, a augmenté de 26%. Et nous en finirons par une proposition que je qualifiais d'utopique, mais à laquelle il vaut vraiment la peine de réfléchir. C'est la question du revenu de base inconditionnel. Il y a une initiative qui circule en ce moment, qui boucle sa récolte de signatures au mois d'octobre 2013. Ça nous laisse un peu de temps pour échanger, discuter et en faire la promotion. L'idée étant que chaque personne domiciliée en Suisse perçoive un montant, le montant n'est pas fixé dans la loi, mais par exemple de 2500 francs. Pourquoi ? Sur la base d'un constat simple, c'est qu'effectivement du travail pour tous, il n'y en a plus. Et un socle de revenus constant pour chaque individu a un immense intérêt. Vous l'imaginez, cet intérêt, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, nous n'avons plus besoin d'une assurance AVS, nous n'avons plus besoin d'une assurance invalidité, nous n'avons plus besoin d'aide sociale, nous n'avons plus besoin de bourses d'études, par exemple. Il y a toute une organisation qui est à revoir et à repenser. Avec des économies extrêmement importantes faites en matière de postes de travail, d'administration. Alors, ça pose la question de fond, c'est quel va être dans ces conditions-là notre rapport au travail, comment est-ce qu'on va investir un éventuel temps libre à disposition, comment seront vus ceux qui veulent continuer à travailler. Malgré tout, il y a là une réflexion de fond sur laquelle il faut qu'on se penche. On a une innovation avec une sécurité fondamentale qui doit garantir à tous de ne jamais se retrouver sans ressources. Voilà, on tenait à finir par cette proposition-là. Elle est vraiment à débattre.